La monoparentalité. Eh ben, c'est la galère. Parce que déjà, avec deux parents, clairement, on fait... En termes d'organisation, on fait toujours que courir entre le boulot, les enfants, tout ça. Mais je me dis, les gens qui sont tout seuls, je ne sais pas comment ils font.
Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un plaisir jamais démenti, mais aussi cet après-midi une certaine appréhension que je vous accueille dans un numéro de Zoom Zoom Zen qui fait cruellement écho à ma situation aujourd'hui, à savoir que je suis seul pour garder Manon et Quentin. Oui, hasard du calendrier, nous allons zoomer sur le phénomène de la monoparentalité quand un parent élève seul ses enfants, pile le jour où Cyril, l'un des deux papas de cette équipe, est absent. Officiellement pour être opéré d'une double hernie discale, officieusement pour se faire percer l'oreille droite, afin d'accueillir la sublime boucle d'oreille en forme de guitare qu'il a choisie sur le site YouTube Passion. Résultat, c'est Bibi qui se retrouve à devoir gérer les gosses, et entre le grand qui, en pleine puberté, découvre son corps au lieu de préparer son micro trottoir.
Un peu flou, mais bien monté.
Et, ambitieux avec ça, et la petite qui refuse de manger sa soupe. Sous prétexte qu'elle préfère le chablis. Vraiment, c'est pas simple de gérer seul les gosses. Surtout le vendredi, parce que le vendredi, il faut aussi changer François Rollin. Et ça, d'habitude, c'est Cyril qui s'en occupe. En effet, un petit problème physiologique, rien de grave. Un léger relâchement du périnée fait qu'il est déjà habitué au maniement des couches confiance. Ouais, on l'embrasse là où il est.
Sans mon coparent,
je suis débordé. Et encore, c'est qu'une journée. J'ose même pas imaginer ce que vivent les parents solo, pour qui c'est tous les jours comme ça, la vache. Ça y est, Manon, t'es prête ?
Lèche-moi !
Mais non, mais ça suffit de dire des conneries maintenant ! Tu mets ton menton, on y va ! Zoom Zoom Zen, c'est parti !
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Oh, excusez-nous, Hélène Périvier, bonjour.
Bonjour.
Heureusement, vous connaissez un peu l'esprit de cette émission. Hein. Vous êtes économiste, Hélène, directrice de recherche à l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, présidente du Conseil de la famille au sein du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Vous allez tout nous expliquer sur les conséquences de la monoparentalité, le temps que Quentin parce que vous verrez, Quentin, aujourd'hui, vous vivez d'amour et d'eau fraîche, vous n'avez pas d'enfants, mais vous verrez, quand vous aurez des enfants, l'idée même de la monoparentalité vous donnera le vertige. Juste le temps de vous présenter deux jeunes adultes qui me donnent bien du souci. Si Cyril n'est pas là pour leur gueuler dessus avec sa grosse voix et les corriger avec son martinet, ils font n'importe quoi. Manon Mariani, quant à lui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous.
On est un peu dissipés.
Bonjour, papa.
Très, très dissipés.
Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.
C'est terrible. À vos côtés, Hélène, l'intenable Marianoche. Manon, chaque après-midi, vous nous envoyez une petite pièce jointe en rapport avec notre thème du jour.
Et aujourd'hui, je vous envoie un personnage de série, une maman solo qui a bercé les années 2000 de beaucoup d'adolescents.
Ah, j'aime pas ces teasers où il faut deviner.
Ah, vous savez pas ?
Non.
Non, mais je pense que je suis pas sûre que vous connaissiez.
Très bien. Des années 2000 quand même, peut-être.
Gilmore Girls.
Ah non, je connais pas. Enfin, je connais le titre, mais j'ai jamais vu.
Bah voilà.
Très bien. Allez. Face à vous, Hélène, les mères solo n'ayant déjà pas suffisamment d'affaires, n'étant pas suffisamment pressées le matin entre le dépôt en crèche du petit et le passage à la pharmacie pour récupérer le vaccin du grand, sans compter les courses, il a décidé d'arrêter les mères solo dans la rue pour qu'elles prennent en plus le temps de lui raconter ce qu'elles vivent. Alors, Quentin, les passants que vous avez croisés avaient-ils des choses à dire sur la monoparentalité ?
J'ai un peu de chance parce que c'est les vacances, donc un peu plus de temps et puis un petit cours de diction peut-être. Alors,
j'ai très bien prononcé la monoparentalité.
Alors on va
le couper, ça.
Non, mais c'est les vacances. Les mamans ont un peu plus de temps. Je suis devenue une autre activité de la journée avec les enfants. Ah, il y a un micro. Oui, ça m'a permis de causer. Pension alimentaire, agenda partagé avec l'ex-mari.
C'est pas tous les jours
qu'on peut discuter de ça. Je vous raconte ça dans la prochaine demi-heure.
Je pense que je vais beaucoup témoigner dans cette émission. Vers 16h30, par un pas de côté habile, nous remonterons aux origines de la monoparentalité, la séparation. Cette séparation à laquelle nul n'est à l'abri et qui pend au nez de Manon et son petit ami depuis que ce dernier la surnomme la taupe.
Ça chauffe
pas mal chez les Marianoches, et dans le quiz nous partirons à la découverte des divorces les plus rocambolesques de l'histoire. Juste avant 17h, nous aurons droit au bilan hebdomadaire du professeur Rollin qui nous dira si on a été bon ou pas cette semaine. Après 17h, on passera en mode zoom zoom back direction 2015 aujourd'hui. 2015, l'année de tous les possibles, puisque la COP21 a couché de l'accord de Paris sans savoir qu'il serait un peu morné. Mais d'abord, zoom donc sur ce phénomène plus du tout marginal de la monoparentalité. Déjà, Hélène Périvier, est-ce que la monoparentalité est un statut reconnu en France ?
Alors, c'est pas un statut stricto sensu, mais par contre, il y a des politiques publiques qui ont été adaptées, qui se sont déployées pour accompagner cette situation qui est de plus grande fragilité et de précarité qu'ont ces familles. C'est plus souvent des femmes qui sont à la tête de ces ménages. Donc, on parle souvent de mères isolées. Mmh. Et donc, c'est vrai que les politiques publiques se sont bien adaptées avec différents aspects, à la fois des aspects pour compenser les pensions alimentaires qui peuvent être trop faibles, pour aider au recouvrement de celles-ci, ou par le système social et fiscal pour aider plus de façon plus dense ces familles-là.
Tous ces systèmes d'aide, les femmes isolées, comme vous dites, les mamans solo, puisque c'est d'elles essentiellement qu'on va parler aujourd'hui, elles sont au courant de toutes ces aides. Elles ne peuvent pas passer à côté, s'il y en a qui nous écoutent cet après-midi. Est-ce qu'elles savent qu'elles ont droit à toutes ces aides ?
Si, je pense qu'elles peuvent passer à côté de certaines d'entre elles. Je pense notamment à l'allocation de soutien familial complémentaire, peut-être qu'on en parlera, mais ouais, évidemment c'est déjà un mot compliqué, mais c'est une allocation qui garantit que la pension que perçoit une femme qui élève seule ses enfants ne peut pas être inférieure à 200 euros. Donc si l'ex-conjoint verse 100 euros, eh bien cette personne a droit à 100 euros complémentaires.
Ah, c'est l'État qui vient apporter la différence.
La solidarité nationale vient compenser le fait que le père n'était pas en capacité de payer une pension suffisante. Donc ça, on sait qu'il y a un taux de non-recours, c'est-à-dire de personnes qui ont droit et qui ne demandent
pas,
qui est assez élevé.
Il n'est pas physiquement avec nous cet après-midi, puisqu'à l'heure où nous parlons, une aiguille est en train de lui perforer l'oreille. Bah oui, grosse oreille, grosse aiguille. Mais Cyril fait front avec panache, il serre les poings, pense à cette magnifique boucle d'oreille, guitare électrique et lance héroïque.
Drill, baby drill.
Un homme digne d'admiration, surtout qu'avant de s'éclipser, il nous a évidemment enregistré un petit d'où ça sort.
Bien sûr.
Ce qui me permet de lui poser la question rituelle. Cyril, racontez-nous la monoparentalité, d'où ça sort ?
Eh bien, imaginez un matin dans un salon parangé, un parent seul prépare les cartables, le petit déjeuner, les vêtements. Un seul adulte met plusieurs casquettes, éducateur, cuisinier, comptable, confident, un genre d'artisan mais appliqué à la vie de famille. Bienvenue dans la monoparentalité. C'est dans les années 70 que la notion est apparue en France. Avant, on parlait de famille brisée ou de mère célibataire, des termes lourds et surtout des termes qui portaient un jugement sur une situation. Et c'est la sociologue Irène Théry qui contribue à diffuser la notion de famille monoparentale. Pour la chercheuse, il s'agit de casser l'idée selon laquelle la monoparentalité serait une anomalie alors que c'est une forme de famille à part entière. Mais des familles pour qui la vie est plus dure que pour les autres. À l'époque, des rapports parlementaires alertent déjà. Les familles monoparentales sont les plus touchées par la pauvreté. Pour tenter d'endiguer le problème, Yvette Roudy, la ministre des Droits des Femmes, crée en 1985 les premiers dispositifs d'aide spécifique, mais ils restent marginaux.
Mais le problème, c'est que le nombre de familles dans cette situation explose.
Oui, en France, en 1975, les familles monoparentales représentent environ 10% des foyers avec enfants. L'an dernier, c'est près d'un quart. Et dans 8 cas sur 10, je ne l'ai pas encore dit jusqu'ici, c'est évidemment une femme qui élève seule ses enfants. Sur le plan politique, la monoparentalité devient un symbole de fracture. Pour la gauche, c'est la preuve que l'État doit renforcer la solidarité. Pour la droite, parfois, le signe d'un affaiblissement du modèle familial. Alors, d'où ça sort la monoparentalité ? Eh bien de là, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci bien Cyril, et surtout, bonne chance. Hélène Périllier, je vous ai vu tiquer à un moment de ce d'où ça sort. Alors Cyril n'est pas là pour s'expliquer, mais visiblement c'était au moment de... On parlait d'Yvette Roudy, la ministre des Droits des Femmes, qui crée en 1985 les premiers dispositifs d'aide spécifique qui restent marginaux.
Vous avez... Alors Yvette Roudy, grande ministre, incontestablement. Mais en fait, il y a un dispositif avant 85, l'allocation de parents isolés qui est créée en 76, qui permet, qui est une sorte de minimum social que l'on peut verser à un parent, une mère qui élève seule son enfant. Alors c'est jusqu'aux 3 ans de l'enfant, donc c'est pas une aide. Aujourd'hui, c'est le RSA majoré, ce qu'on appelle le RSA majoré, donc ça existe toujours. Mais donc, c'est plutôt le milieu des années 70 où on a commencé un peu à repenser les politiques publiques dans une optique de plus grande diversité de configurations familiales.
Mais c'était pas les mêmes proportions, parce qu'aujourd'hui, ça concerne un quart des familles. C'est énorme.
Oui, aujourd'hui, c'est très fréquent, parce que les couples se séparent beaucoup. Alors, dans les années 70, c'était plutôt soit des naissances avec abandon du père, soit des veuvages. Aujourd'hui, c'est essentiellement des séparation. Donc il y a, on parle de famille monoparentale, mais il y a le plus souvent le second parent est là, et donc il aide et il contribue. Donc c'est peut-être pas le mot approprié, on devrait peut-être parler de foyer monoparentaux, parce que la notion de famille est peut-être plus large.
On l'a dit et redit, mais 8 fois sur 10, c'est la mère qui s'occupe des enfants seuls, 8 fois sur 10, c'est quand même énorme. Là encore, comment on peut l'expliquer ?
Ben, en fait, alors ça, c'est très bien montré par mes collègues sociologues qui travaillent sur les décisions de justice. Les couples, quand ils se séparent, arrivent déjà avec la volonté d'une organisation. Et le plus souvent, le couple a décidé que c'était la mère qui aurait la garde des enfants, dont le juge ne fait que acter la décision.
Ce qui est demandé par les parents, c'est pas le juge qui dit c'est forcément la mère qui doit avoir l'enfant.
Tout à fait, c'est demandé
par les parents. Si plus d'hommes disaient moi je veux la garde, ça serait certainement
tout à fait.
Plus équilibré.
En tout cas, il pourrait y avoir plus. Dans ce cas-là, il peut y avoir bataille ou garde alternée, mais c'est vrai que c'est une demande des couples.
Parce que là, du coup, ça veut dire que le père va voir son enfant un week-end sur deux, par exemple.
Oui, alors ça, c'est le régime, j'allais dire, le plus appliqué, le plus courant.
Et quand on connaît les écarts de salaire homme-femme, dont on parle aussi assez souvent ici, être une femme seule à s'occuper des enfants, c'est la double peine.
Oui, parce que ça a été très bien montré aussi. On voit qu'au moment où les couples se séparent, il y a une perte de niveau de vie pour les deux. Parce que quand vous êtes en couple, vous avez des économies d'échelle, notamment le logement, qui est quand même le plus gros poste de dépense. Alors là, il faut trouver deux logements, équiper les deux logements. Et ce sont les femmes qui ont une perte de revenus, notamment beaucoup plus importante, c'est à peu près 20% de perte de revenus et plus durable dans le temps. Pourquoi ? Parce que elles ont souvent mis un peu de côté leur carrière quand elles étaient en couple, elles ont pris un temps partiel ou elles se sont arrêtées de travailler, elles sont plus vulnérables vis-à-vis de l'emploi et de fait, elles se retrouvent dans une situation précaire. Et puis du coup, elles ont plus de mal à se remettre en couple, ça a été aussi très bien montré parce que les moments de socialisation sont plus rares, c'est plus difficile aussi de rencontrer quelqu'un, puis vous avez les enfants à charge tout le temps avec vous, alors que les hommes se remettent en couple plus facilement.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
Ce n'est plus un phénomène à la marge, c'est le quotidien d'un quart des familles françaises. Zoom cet après-midi sur la monoparentalité avec l'économiste Hélène Périvier. Hélène, je voyais ces chiffres, 20% des mères seules sont des travailleuses pauvres. La séparation fait basculer sous le seuil de pauvreté un quart des foyers. La monoparentalité, c'est un fait de société et c'est surtout une urgence économique aujourd'hui.
Oui, une urgence économique et sociale. Parce que c'est vrai que le taux de pauvreté est beaucoup plus élevé et en plus on le sous-estime. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais en fait, dans les faits, les niveaux de vie de ces familles est encore plus faible que ce qu'on croit. Oui, parce que vous avez une charge importante, vous devez avoir l'organisation qui va avec, donc ça veut dire aussi plus de difficultés, on en a parlé tout à l'heure, d'accès à l'emploi, parce que vous ne pouvez pas prendre n'importe quel emploi, il faut que ce soit compatible avec les horaires de la crèche ou de l'école, pas trop loin, et donc tout ça crée beaucoup de contraintes, et puis souvent la pension qui est versée par l'ex-conjoint ne suffit pas pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants, donc ça les met dans une situation de grande fragilité, même si les politiques publiques essayent de compenser, mais ne compensent pas complètement la perte de niveau de vie après une séparation.
Je voyais que depuis le 1er septembre, le complément de libre choix du mode de garde est accessible jusqu'aux 12 ans de l'enfant. De quoi s'agit-il ?
Oui, alors le complément de libre choix du mode de garde, c'est l'aide qu'on donne aux parents qui optent soit pour une assistante maternelle, donc c'est pour les enfants, normalement c'est pour les enfants avant la scolarisation, soit pour une micro-crèche, peut-être que ça parle écoutent. Voilà. Et donc c'est un complément qui est versé pour aider à couvrir une partie du coût. Alors il a été réformé parce qu'en fait avant il avait beaucoup d'effets de seuil, c'est-à-dire que ça montait selon le revenu, puis tout d'un coup le montant chutait, donc ça créait beaucoup de situations un peu incompréhensible, et donc on a calé le montant de l'aide de sorte à ce que ce qui reste à charge pour les parents soit en fonction du revenu et corresponde à peu près ce qui est le cas dans une crèche, une grande crèche.
Mais donc concrètement, ça coûte combien et l'État nous donne combien ?
Ça dépend beaucoup de votre revenu, du nombre d'heures de garde que vous avez. C'est très compliqué. On peut penser que
vous voulez que je vous le dise. Moi, j'ai ça.
Mais ça dépend du revenu de Mathieu Noël.
Je pense qu'il n'a pas d'aide.
Si, j'ai une aide.
3 euros.
Non, c'est plafonné, mais c'est beaucoup. Je vais vous le dire. La crèche, elle coûte à peu près 1500 ou 1600 euros par mois. Et la CAF me verse 720 euros par là.
D'accord. Voilà.
Donc quasiment un peu plus de la moitié.
Oui,
c'est un peu moins de la moitié.
Alors oui, il y a des aides qui sont très substantielles pour la garde du jeune enfant. Et alors donc pour faire écho à ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, ce qui a été fait, donc on a réformé ce complément. Évidemment, il y a un peu de perdants, donc c'est toujours un peu problématique. Mais au moins pour les familles monoparentales, ce qui a été fait, c'est qu'on l'a étendu jusqu'aux 12 ans, parce que ça permet quand même de pouvoir avoir le soutien d'une personne sans que ça coûte trop cher pour pouvoir aller chercher un enfant, parce que à 12 ans, à 10 ans, on n'est pas autonome. D'ailleurs, on pourrait même dire pour les ados, ça se questionne aussi. En tout cas, jusqu'à 12 ans, demander à l'enfant de revenir tout seul de l'école, ça peut être compliqué dans certaines zones.
J'aime bien être très pratique cet après-midi, parce que je pense à toutes les mamans solo et les papas solo éventuellement qui nous écoutent. On fait le tour des aides. Il y a l'allocation de soutien familial, l'ASF, 199,19 € par mois, versée sans condition de ressources dans la majorité des cas.
Oui, alors c'est celle dont je parlais tout à l'heure, mais elle a trois niveaux différents. Ah. Donc c'est toujours 200 euros, j'ai arrondi à 200 euros par enfant par mois. Donc ça peut être l'ASF complémentaire dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire si le juge a donné une pension qui est plus faible que ça, eh bien la personne peut demander ce complément. Ça peut être recouvrable, c'est-à-dire si l'ex-conjoint ne paye pas sa pension, alors la CAF peut verser, en attendant de recouvrer les pensions qui sont dues, verser aux parents isolés qui est créditeur cette somme-là. Et ça peut être aussi, l'ASF peut être non recouvrable dans le cas, par exemple, d'un abandon où il n'y a pas de second parent, ou alors quand ce second parent est hors d'état, soit parce qu'il est au RSA, soit parce qu'il est en prison. Par exemple, il y a plein de situations dans lesquelles l'autre parent ne peut pas contribuer au niveau de vie de son enfant. Et dans ces cas-là, il y a cette solidarité nationale qui se met en place.
Est-ce que la garde d'enfants est un frein au retour à l'emploi des mères qui sont seules? Est-ce que ces mères sont discriminées par leurs employeurs?
Alors, c'est toujours difficile de mesurer exactement la discrimination. J'imagine. Mais c'est vrai que nous, on a fait une étude à l'OFCE, un rapport qui date, maintenant c'est 2020, mais on a essayé de montrer les difficultés spécifiques qu'avaient les parents isolés dans le retour à l'emploi. Et ce qu'on voit, c'est que, par exemple, dans les zones où il y a beaucoup de chômage, en fait, les mères isolées sont vraiment très empêchées d'accéder au marché du travail, parce que du coup, il faut aller chercher plus loin, il faut pouvoir être plus souple dans sa demande et sa recherche d'emploi, ce qu'elles ne peuvent pas se permettre de faire, puisqu'elles ont des contraintes qui sont beaucoup plus fortes qu'une femme qui est en couple, par exemple.
Il y a beaucoup de mamans solo qui sont orientées vers des métiers précaires aussi, notamment dans le secteur du nettoyage, de l'hôtellerie, restauration, la grande distribution. C'est une fatalité qu'on peut conjurer d'une manière ou d'une autre, ça, ou c'est compliqué?
Non, alors ça, c'est de façon générale, tous ces métiers que vous avez cités sont plus souvent pourvus par des femmes. Donc, de fait, quand il y a séparation, c'est une partie des mères isolées représentent aussi ces métiers-là. Mais vous avez toutes les mères isolées ne sont pas pauvres. Hein. Vous avez aussi des mères isolées qui sont cadres sup, bien sûr. Mais c'est vrai que comme ce sont des métiers très féminins, forcément, et que la plupart des parents isolés sont des mères isolées, vous avez une représentation importante de ces métiers-là.
Et vous, quel regard portez-vous sur la monoparentalité, Quentin ? Est allé vous poser la question dans la rue.
Je commence mes rencontres par cette maman qui, vacances oblige, tient un enfant par le bout de son bras gauche, accroche un autre dans la poussette. La grand-mère observe la scène en me souriant et en voyant approcher mon micro rouge. Que pense-t-elle de...
La monoparentalité ? Eh ben, c'est la galère. Parce que déjà, avec deux parents... En termes d'organisation, on fait toujours que courir entre le boulot, les enfants, tout ça. Mais je me dis, les gens qui sont tout seuls, je ne sais pas comment ils font. Et s'il n'y a pas les parents à côté ou les grands-parents ou de la famille, ils n'ont plus de vie.
Oui, moi je note une chose, c'est que mamie est à côté. Hein. Oui. Ce qui est dur, c'est qu'on n'aura pas mamie à côté.
C'est ce qu'elle dit. Et elle dit, plus de vie si on est seul et on s'oublie soi. Et c'est peut-être ça le vrai piège de cette monoparentalité. J'arrête maintenant cette femme et son petit bonhomme qui marche dans la rue. Il se balade en parlant de nombreux pigeons qui s'envolent juste à côté. Elle porte un ciré jaune et lui un manteau bleu et des petites lunettes marron.
Bonjour.
Bonjour.
C'est quoi ton prénom à toi ?
Antoine.
Et t'as quel âge ?
4 ans et demi.
Et vous, votre prénom c'est ?
Rachel. Ah, la monoparentalité. Eh bien, je suis une famille monoparentale, donc ça me parle.
Ah !
Antoine, il a deux maisons. Donc là, c'est les vacances avec maman.
Je lui demande comment ils se sont organisés.
Très bien, il y avait une volonté des deux côtés d'être très présents pour notre fils. Et donc, ça se passe très bien. On n'habite pas loin. On a vraiment organisé notre vie pour que, pour que ça fonctionne. On a l'école entre les deux. Et donc, une nounou commune qui fait les sorties de classe.
Antoine me regarde, tout intimidé par mon micro. Et lui, il trouve quand même un point positif à tout ça. Pourquoi c'est chouette d'avoir deux maisons ?
Parce que j'ai un peu plus de jouets.
C'est pas faux.
Oui, tout à fait.
C'est une bonne réponse.
Exactement.
Comment vous dites semaine A, semaine B ?
Oui, c'est pas vraiment en semaine. C'est en 2-2-3 pour les experts. Deux jours l'un, deux jours l'autre, deux jours l'un. Et on n'a pas d'agenda partagé et je vais rater mon bus.
Allez-y, filez.
Ça marche.
Vous allez l'avoir. Au revoir, Antoine. Ciao.
Au revoir.
En 2-2-3. Voilà comment j'apprends aussi des choses dans la rue. Ma dernière rencontre, c'est elle.
Bonjour, je m'appelle Monia, donc j'ai 51 ans et je suis donc présidente et fondatrice de l'association des familles monoparentales.
Monia,
tu l'as rencontrée comment ?
Monia, c'est une auditrice de Zoom Zoom Zen qui m'avait arrêtée dans la rue il y a quelques semaines en me disant qu'il serait temps qu'on parle chez nous à Zoom Zoom Zen de la monoparentalité parce que c'est partout autour de nous sans qu'on en ait réellement conscience.
Il y a les mères totalement isolées qui n'ont pas de pension, pas de visite du père, etc. Un abandon total. Puis on a aussi toutes les autres... type de famille monoparentale, on a les mères qui sont pas forcément ultra précaires ou abandonnées, il y a les gardes alternées, il y a aussi quelques pères malgré tout, 10 à 12%.
Ah, ça tombe bien parce que des papas, j'en ai pas croisé. Statistiques oblige, dans la rue, c'est plus compliqué. Elle me dit qu'elle a un adhérent dans l'asso, un papa solo. Comment ça se passe pour lui?
En fait, il a cette image, c'est très ambivalent parce qu'il vit la même chose que les, entre guillemets, mères solo. Mais c'est vrai que la vision, l'image du père dans la société, le père qui s'implique déjà dans un couple qui n'est pas séparé, c'est déjà un peu « waouh ». Il t'aide, c'est un peu l'image du héros entre guillemets. Alors le père solo, on est sur une imagerie. Tu te rends compte, il s'occupe tout seul de ses enfants, il est triste, il est séparé. Enfin, alors que la maman solo, elle a plutôt une image un peu victimaire. Ouais. C'est très inconscient, mais effectivement, on va dire que l'image de l'homme déteint sur l'image du père.
Le papa super héros, super solo, elle me parle des combats portés par l'association, notamment autour de la pension alimentaire.
Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le parent non gardien qui verse la pension peut le déduire de ses revenus. Tandis que la personne qui reçoit la pension l'ajoute à ses revenus. Alors, il ne s'agit pas de taper sur le parent non gardien parce qu'il a effectivement ses contraintes et ses problèmes aussi, parce qu'il faut qu'il se loge pas très loin de chez son enfant, qu'il verse une pension. Il y a plein de sujets. Néanmoins, il y a ce petit avantage fiscal qui est quand même un peu rageant pour les, notamment pour les femmes qui déjà sont pénalisées de fait sur leur salaire, puisque les salaires sont plus bas pour les femmes. Mais si en plus on considère que la pension qui vient contribuer à l'éducation des enfants est imposée, il y a quand même un petit sujet.
Un sujet, l'aspect financier donc, mais pas seulement, l'aspect logistique aussi fait partie du combat.
Clairement, nous on milite aussi pour travailler à l'inclusion professionnelle et à faire comprendre aux entreprises qu'en fait, vos salariés, ils sont aussi parents. Alors, ils sont parfois monoparents, ce qui veut dire qu'ils sont seuls. Il faut juste faire le truc, une réunion qui commence à 17h30, matériellement, le parent, il ne pourra pas être à 18h à l'école. Donc, j'ai envie de dire, un parent, quelqu'un qui commence à avoir la goutte de sueur à 17h45 en réunion, quelqu'un qui speed, si vous commencez à regarder dans le métro à 6h moins le quart, vous allez voir que tout le monde est en stress. Et parce qu'en fait, voilà, la question du temps, elle est, je veux dire, c'est un polar, quoi.
Et dans cette rue où les poussettes se frôlent, où les mains manquent souvent pour tout porter, on se dit qu'élever seul un enfant, c'est un numéro d'équilibriste entre tendresse et lassitude, et que le plus souvent, ce sont surtout les femmes qui marchent sur ce fil-là, et qu'au fond, la chanson avait peut-être tout résumé avant l'heure. Allô maman bobo pourrait s'appeler en 2025 « Allô maman solo oh. ».
Le grand tube du père de Pierre Courade,
oui,
on l'embrasse.
Vrai.
Hélène Périvier, Monia qu'on vient d'entendre nous parler des horaires de travail qui mettent parfois la goutte au front de certains parents. Est-ce qu'il faut, en 2025, que le monde du travail s'adapte à ces nouvelles vies familiales? On dit que ça représente un quart des Français, c'est énorme. En finir, par exemple, avec les réunions à 17h45.
Oui, alors c'est vrai que c'est une forte demande. Alors, au Conseil de la Famille, on a fait une grande enquête sur la parentalité et il y a une grosse demande sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail. Ça, c'est vrai, surtout quand les enfants sont petits. Parce que c'est tous ceux qui ont eu des enfants petits qui travaillent se sont rendus compte qu'effectivement à 18h tout le monde panique et il faut arriver à l'heure et que la crèche ferme ou l'école ferme parce que le périscolaire c'est pareil, il faut être vraiment à l'heure et ça crée beaucoup de stress donc voilà, certains employeurs peuvent être plus conciliants que d'autres et ça c'est des choses qui se négocient au sein de chaque branche ou chaque entreprise.
Fiscalement, moi je découvre cette injustice. Celui qui fait la pension peut défiscaliser et celui qui reçoit la pension l'ajoute à ses revenus. C'est quoi cette incohérence? Comment ça a pu être pensé comme ça?
Alors, c'est vrai qu'il y a de l'incohérence, mais il y a pire que ça, hein, parce que alors du côté de l'impôt sur le revenu, c'est pas si incohérent que ça, même si ça mérite d'être quand même aménagé. C'est-à-dire que quand vous êtes en couple, vous avez des dépenses pour vos enfants et vous avez le quotient familial qui vous permet d'avoir un avantage fiscal qui tient compte de cette charge. Il est plafonné à 1 500 € par demi-part. Quand vous vous séparez, on va considérer que monsieur verse, on va dire monsieur verse sa pension alimentaire, il a une charge, objectivement, il a quand même une charge, il va la déduire de son revenu et madame c'est là où il me semble que l'avantage est peut-être un peu trop élevé. Il va la déduire de son revenu, madame va l'imposer va la mettre sur son revenu imposable et va bénéficier des parts fiscales dont une demi-part supplémentaire parce qu'elle est parent isolé. Donc le fisc pourrait dire je tiens compte de la situation des deux. Le problème là-dedans, c'est que monsieur il n'a pas de limite dans ce qu'il peut déduire de son revenu imposable. Il peut déduire toute la pension alimentaire, plus tous les frais en nature qu'il a pour ses enfants. Alors là, ça lui crée un avantage. Plus il est riche, plus l'avantage est important. Alors là, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui mériterait d'être plafonné. D'ailleurs, quand vous avez un enfant majeur et que vous lui versez une pension, il s'est plafonné à 7 000 € maximum de déduction de votre revenu imposable. Donc on pourrait très bien imaginer faire la même chose. Je pense que ce ne serait pas consensuel auprès de certains pères qui n'ont pas la garde de leurs enfants. Mais ça, ça permettrait de rendre le dispositif plus logique. En revanche, moi, je voudrais juste appuyer sur un point, sur quelque chose qui me semble encore plus injuste, c'est que, par contre, quand on calcule, par exemple, les droits à la prime d'activité, donc là, on est sur des ménages plus précaires, droit à la prime d'activité pour les deux ex-conjoints, eh bien là, monsieur, il doit, dans ses ressources qu'il déclare pour avoir droit à la prime d'activité, il ne peut pas déduire la pension qu'il verse à sa conjointe, même si elle est petite, ce qui veut dire que sa prime d'activité est plus faible, et elle doit l'intégrer à ses bases ressources. Donc pour les ménages les plus précaires, c'est compté deux fois. Donc pour moi, la grosse anomalie, elle est là. Dans le système fiscal, il y a quand même des aménagements, mais il y a une loi qui est passée il y a pas longtemps, enfin il y a très récemment, hein, pour essayer de faire en sorte que madame n'ait pas à être imposée sur la pension alimentaire qu'elle perçoit. Bon, ça se discute parce qu'elle est part, mais bon, c'est vrai que tout ça est très, 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 à la fois très technique et très sensible.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
Derrière la monoparentalité, il y a souvent d'abord une séparation. Certaines sont plus douloureuses que d'autres, comme la fois où, au tournant des années 2000, dans un cybercafé de Dakar, Cyril Lacarrière avait enfin obtenu une réponse à ses 137 mails désespérés qu'il avait envoyés à Geneviève Tapineau. Sa fiancée restée à Paris. Message en forme de gifle pour l'ego de celui qui était déjà persuadé d'être irremplaçable. B de bail. Et on démarre ce quiz chez les ultra-riches, stars du cinéma, milliardaires, oligarques, oncle mafieux de Quentin Lui. On envie parfois ces ultra-riches, or, en cas de divorce, ils souffrent deux fois plus, sentimentalement et financièrement. On passe rapidement sur le divorce le plus cher de l'histoire. Vous savez que c'est celui de...
Le vôtre ?
Le vôtre, ouais.
Alors, moins deux pour vous, Quentin. Vous êtes à moins deux tous les deux, donc on repart à zéro. Voilà, très bien. C'est celui de Jeff Bezos. Pour évoquer plutôt le 9e divorce le plus coûteux de l'histoire, celui de Steven Spielberg et Amy Irving. 100 millions de dollars pour Amy. Une somme fixée par le juge sur la base d'un accord prénuptial signé entre les deux tourtereaux. Ah. D'après vous, sur quel support assez inattendu ce fameux accord a-t-il été signé ? Il a été signé au dos du script de Jurassic Park, au dos du certificat de l'Oscar du meilleur réalisateur que Steven avait décroché pour La Liste de Schindler, ou sur une serviette pendant le banquet de son mariage. Ils avaient fait tourner les serviettes.
C'est B. C'est la serviette.
Vous imaginez ?
J'ai déjà lu ça quelque part.
Vous l'avez lu ?
Oui, je l'ai lu quelque part.
Mais Manon, vous dites ?
Moi, j'ai dit B.
Vous avez dit B ? Ah, sur la liste de Schindler, l'Oscar ?
Ouais.
Non, et là, c'est la réponse C. Oui, je sais que vous auriez aimé que ce soit la B ou la A. C'est moins original. C'est pendant leur soirée.
Mais c'est une bonne réponse.
C'est pendant la soirée de mariage que Steven Spielberg et sa future épouse ont rédigé, comme ça, sur un coin de table, un petit document qui pèserait lourd plus tard devant le juge. Bon, Steven, c'est bien joli la pièce montée, mais si jamais ça tourne mal, tu me laisses combien ? Allez, 100 millions, top là. Morale de l'histoire, bien penser à toujours brûler tout document que j'aurais signé à la faveur d'une 12e chartreuse le soir de votre mariage. Mais attention, top, on part en Irlande. Terre sauvage et généreuse qui a inspiré tant de poètes, y compris Michel. Dans ce pays assez traditionnaliste, il faut le dire, une Irlandaise va s'affranchir de toutes les conventions en divorçant après 10 mois de mariage. Mais de qui ? D'un imposteur qui lui avait fait croire qu'il était Justin Timberlake ? D'un fantôme de pirate ?
Non.
Ou de son frère ?
B.
Alors maintenant, je tiens à vous signaler que je suis très choqué parce que vous me dites que c'est la C, parce que l'Irlande, c'est comme la Picardie, ouais. C'est le Nord. Non, c'est pas la réponse. Quentin, vous me
dites... Les pirates, moi, j'ai dit.
Les pirates, effectivement.
Je vais vous dire, je vous connais
par cœur. Ah, mais il est recyclé, ce quiz.
Oh, ça m'étonnerait.
C'est pour ça.
Mais vous savez, en deuxième partie, on va parler de la COP21 et de l'importance du recyclage.
Et
vous n'avez pas l'air conscient des enjeux.
C'est d'un pas être si loin parce que je m'en souviens bien.
Amanda Tigg, c'est son nom, a divorcé d'un pirate, les amis. Amanda était justement une mère solo. C'est pour ça que ça s'adapte aussi bien à cette émission. Elle élevait seule ses 5 enfants jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse et dise oui à un fantôme prénommé Jack au cours d'une cérémonie célébrée par un prêtre chaman sur un bateau naviguant au large de l'Irlande. Vous le voyez venir ? Puisque vous bossez avec Cyril, vous arrivez à savoir ce qui se passe dans la tête des fous. Ce Jack n'était pas n'importe quel Jack, mais Jack Sparrow, le pirate des Caraïbes, plutôt le pirate haïtien qui avait inspiré le personnage joué par Johnny Depp. L'idylle, hélas, ne passera pas le cap des noces de coton. Amanda l'annonce dans un poste déchirant à sa commu. Je vous expliquerai tout en temps voulu, mais pour l'instant, la seule chose que je voudrais vous conseiller, c'est de rester très prudent lorsqu'on traficote avec l'au-delà. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Espérons que Cyril en prenne une bonne note. Lui qui est persuadé d'entretenir un lien unique avec Jackie Sardou, la mère de Michel. Mais attention, encore un petit coup de Michel, ça fait toujours du bien. Attention, car il y a pire que divorcer d'un fantôme, être marié à un fantôme. Nous sommes au Japon, le pays où le soleil se lève, où les gens sont polis et où Quentin lui met du L. Le Japon où une femme a demandé et obtenu le divorce, pour quel motif selon vous ? Parce que son époux l'a laissé en vue sur Insta ? Parce que son époux ne répondait pas à ses textos ? Ou parce qu'il ne l'avait pas laissé accéder à son compte privé sur Instagram ?
Les textos. Je m'en rappelle de Squeeze maintenant.
C'est.
Ah, tout à coup, vous vous rappelez.
C'est. Illumination.
C'est. Ça n'a rien à dire. La bonne réponse était celle de Manon. La réponse B, un divorce pour faute en France. Il faut au moins une tromperie. Au Japon, c'est plus sévère. Il suffit de ne pas répondre aux textos de sa femme. Moi, perso, si je faisais ça, c'est pas le divorce qui m'attend, mais la mort. Enfin, certains divorces interviennent si rapidement après le mariage qu'on peut se demander s'il n'y a pas eu une forme de précipitation. Un peu comme quand Cyril avait pris son abonnement à la salle CrossFit Barbu et Sclému avant de renoncer très vite pour revenir à la seule discipline dans laquelle il excelle, le CrossFit.
Oh, bien. J'étais allé dans sa salle de CrossFit là, au Louvre. Là.
Elle y était déjà cette blague dans le
Oui, mais seul Quentin a ri. Un point bonus pour lui. Bonus lèche.
J'ai ri. Hein.
Ma question est la suivante, les amis. Quel est selon vous le mariage le plus court de toute l'histoire? Plus court que celui de Dennis Rodman et Carmen Electra, 9 jours. Plus court que le Zoom Zoom Zing, une semaine. Le mariage le plus bref de l'histoire a duré 3 minutes, 12 minutes ou 16 minutes?
B, 12.
C, un quart d'heure.
La bonne réponse était la réponse A.
3 minutes.
Montre en main, ça s'est passé en 2019 au Koweït et pourtant, en sortant du tribunal qui venait d'officialiser l'union, l'épouse a trébuché dans l'escalier.
Elle est morte?
Elle est tombée. Le mari l'a alors traité de stupide. La jeune mariée a immédiatement fait demi-tour pour demander le divorce. Cyril avait vécu peu ou prou la même chose la fois où à l'Alpe d'Huez, il avait foiré son slalom lors du critérium des éditorialistes médias.
C'est 20 secondes de plus qu'hier, c'est le même parcours, c'est bien le même parcours là-bas.
Mais t'énerve pas, je crois que t'as accroché une porte.
J'ai pas accroché, j'ai ripé. Parle pas de ce que tu connais pas. Mais quelle icône celle-là.
10 minutes plus tard, devant le notaire de l'Alpe d'Huez, Madame la Carrière demandait le divorce. Défaite de l'amour et victoire de Quentin. Et
comme
oui,
souvent, comme souvent. Souvent.
Et grâce à sa mémoire.
Merci à tous.
Rajouter un point.
Merci
Maman
à tous.
Solo ou plus rarement, on l'a vu, Papa Solo, l'économiste Hélène Périvier est toujours avec nous pour nous expliquer les conséquences de la monoparentalité. Hélène, on a parlé des difficultés économiques des mères solo. Est-ce que cette précarité a forcément un impact sur le développement de l'enfant? On n'a pas encore beaucoup parlé des enfants.
Alors là, vous m'emmenez sur une zone qui n'est pas ma zone de confort, parce que ça, ce serait plutôt, il faudrait poser ces questions, je pense notamment au Conseil de l'enfance, à Sylviane Jean-Pinot, qui pourrait vous dire ça.
Bon,
je ne pense pas qu'on puisse dire que les enfants sont forcément plus malheureux. Il faut prendre acte qu'aujourd'hui, les gens souhaitent se séparer. J'aurais tendance à dire, mais là, c'est vraiment en tant que citoyenne, en tant que chercheuse, hein, que vous peut-être mieux se séparer plutôt que d'avoir des parents qui s'engueulent toute la journée. Donc, voilà, ça, je ne rentrerai pas sur ce terrain-là. Je pense qu'il faut juste, les politiques publiques, elles sont là pour accompagner les gens, de sorte à ce qu'ils puissent élever leur enfant dans de bonnes conditions. Et il y a besoin encore d'accompagner davantage les mères isolées, ça c'est certain.
Au-delà des décisions de justice qui accordent dans près de 72% des cas la garde exclusive des enfants à la mère, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de démission du père, qui a toujours eu un peu dans les décennies précédentes? Peut-être qu'il y a une amélioration aujourd'hui, mais quand même, le père est souvent absent.
Alors, ben ça se voit déjà dans les couples. Enfin, il est pas absent, mais on voit la division sexuée des rôles est quand même très forte dans les couples. On le voit en termes de décisions de travail, de qui fait quoi. Hein. La sociologie du partage des tâches montre bien que, par exemple, si qui s'occupe du linge dans un foyer,
de la santé aussi.
Voilà, ouais. Et de toute l'organisation de la famille, prendre les rendez-vous chez le pédiatre à la volée. Donc tout ça, ce sont les femmes qui le font. Donc c'est vrai qu'une fois qu'ils se séparent, ben, c'est vrai qu'on c'est plus difficile pour un homme qui l'a pas fait quand il était en couple, de se mettre à faire ces choses-là. Alors, quand c'est souvent, quand c'est une demande de garde alternée, bah, le père va s'engager autant, et le plus souvent, c'était très probablement quelqu'un qui était déjà assez engagé dans l'éducation des enfants et qui consacrait du temps. Mais voilà, c'est, progressivement, ça avance, mais c'est très ancré dans les normes de genre.
Manon.
Il y a du travail. Emmanuel Macron avait beaucoup parlé des mamans solo à la suite du grand débat qui avait suivi la mobilisation des Gilets jaunes. Est-ce que c'est un sujet latent dans la société française?
Pas tant que ça, en fait. Ouais. Hein. Moi, j'ai pas le sentiment que... Alors, pendant les Gilets jaunes, effectivement, on a vu cette figure de la mère isolée qui galère, pour laquelle c'est difficile. Et objectivement, c'est très bien montré par les statistiques. Donc, c'est sûr que c'est une configuration familiale qui met les gens en difficulté. Mais il y a eu quand même, ce serait très injuste, il y a quand même eu cette avancée. C'est l'ASF dont on parlait tout à l'heure, qui a été substantiellement augmentée en 2022, hein, puisqu'elle a été augmentée de 50%. Donc, c'était un effort quand même assez important, hein, quand même. Donc, ça, faut quand même le souligner. Mais il y a encore beaucoup à faire. Vous voyez, il y a ces ressentiments autour de la façon dont l'impôt, on en a parlé tout à l'heure, parce que l'argent, en fait, cristallise beaucoup de difficultés, de rapports entre les deux ex-conjoints, avec des sentiments d'injustice des deux côtés. Et donc, bon, alors les politiques publiques ne peuvent pas tout régler, hein, mais en tout cas, avoir des dispositifs qui soient clairs, que les gens comprennent, qu'ils puissent s'approprier, que ça améliore substantiellement leur situation, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire.
Pardon, mais il y a un site de référence si on est une mère solo et qu'on nous écoute écoute là, est-ce qu'il y a un endroit où sont répertoriés un peu tout ce qu'on s'est dit, toutes les aides disponibles, le parcours qu'il faut suivre pour les obtenir?
Alors je pense que Mounia, que vous avez rencontré, qui est à la tête de cette association, c'est typiquement le rôle des associations de faire ça, mais je voudrais aussi dire que les CAF hein, sont les, oui. C'est l'institution qui verse et qui aide les familles et les familles monoparentales en particulier.
Vous montrez donc peut-être pas toujours l'écoute d'une association.
Non, bien sûr, c'est différent, parce que les CAF ne sont pas assez staffés non plus pour pouvoir avoir ce rôle-là. Mais néanmoins, si vous allez sur le site de la CAF, vous rentrez votre code postal, et ben on va vous dire ce à quoi vous avez droit en fonction de vos revenus, de votre situation. Mais ça ne remplacera jamais des associations qui vont vous accompagner plus humainement.
Peut-être, on parlait des incohérences fiscales, on peut aussi parler des incohérences dans les transports, par exemple. Est-ce qu'il faudrait, comme pour les familles nombreuses, des tarifs préférentiels pour les familles monoparentales dans les transports, par exemple?
Alors, ça c'est cette fameuse discussion autour du statut de famille monoparentale. Oui. Le problème de statut, c'est que ça fige un peu les choses aussi. Or, famille monoparentale, c'est pas un état.
Ça peut être temporaire.
On n'est pas forcément famille monoparentale toute sa vie, même si on a vu que c'était plus difficile pour ces femmes de pouvoir se socialiser et refaire sa vie. Mais on peut imaginer, ça c'est aussi les collectivités locales qui peuvent en tenir compte. Par exemple, dans la tarification sociale de la cantine, on peut tenir compte de cette situation spécifique. Dans l'accès aux crèches, par exemple, elles sont plutôt prioritaires. Dans l'accès au logement social, simplement le logement social, comme il n'y en a pas assez, quand vous avez pénurie, vous avez beau être prioritaire, ça ne suffira pas pour vous aider. Mais peut-être qu'on peut aller plus loin, c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir pour avancer un peu, et concrètement, sur des aides du quotidien, pouvoir être un peu plus efficace pour les aider dans l'organisation de leur vie.
On l'a dit, l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre. Je lisais qu'un quart des parents qui n'ont pas la garde des enfants ne paient pas la pension alimentaire. Une fois de plus, c'est les mères seules qui en pâtissent dans la plupart des cas. Est-ce que depuis la mise en place du mécanisme qui garantit le versement de la pension alimentaire par l'État, la situation de ces mères s'est améliorée?
Alors oui, alors c'est vrai que ça s'est amélioré d'abord parce qu'on a cette substitution. Mais pour pouvoir toucher l'allocation de soutien familial, il faut d'abord que la mère ait engagé une démarche judiciaire. C'est pas forcément facile de revenir sur ces choses-là alors qu'on essaye de tourner la page. Ensuite, il y a quand même l'aide au recouvrement des pensions. Il y a juste un petit défaut dont je n'ai pas pu parler tout à l'heure. C'est que, en fait, la façon dont est traité, quand on reçoit l'ASF, donc la mère qui ne perçoit pas sa pension reçoit l'ASF, au moment où on recouvre la pension, pour certaines catégories de mères, ça peut induire une baisse du niveau de vie, ce qui est un peu contre-intuitif.
Comment ?
Parce que pour un euro de pension perçue, elle va perdre plus d'un euro d'allocation logement, de prime d'activité, etc., parce que l'ASF n'est pas traité pareil dans les bases ressources, c'est un peu technique, que la pension. Ah oui. Et du coup, ça, c'est vrai que ça mériterait d'être un peu lissé, mais bon, ça nécessite aussi de déployer plus de moyens, et vous avez compris que par les temps qui courent, c'est pas tout à fait...
Est-ce qu'on peut s'inspirer de ce qui se passe ailleurs dans le monde? Est-ce qu'il y a des pays où ça marche bien, où tout le monde est un peu à la traîne sur ce sujet-là?
Alors, il me semble qu'au Québec, ils sont assez avancés dans la façon dont ils organisent la perception des pensions, puisque c'est un tiers qui perçoit la pension et qui la reverse. Donc, il n'y a plus la mise en miroir des deux ex-conjoints.
Comme un médiateur financier, quoi.
Exactement. Ouais. C'est ce qu'essayent de faire les CAF avec l'IFPA, donc l'institut qui recouvre les pensions alimentaires. Mais il faut pour cela d'abord que les parents, au moment où ils se séparent, ils acceptent tout de suite de passer par cette institution. Alors là, le conseil de la famille va sortir une note, mais dans les semaines qui viennent. Donc, j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller se rendre sur le site pour la lire, parce que c'est très technique. Mais l'idée, il faut quand même que les gens puissent se saisir de cette institution. S'ils ne donnent pas les éléments nécessaires, le montant de la pension, les RIB de chacun, etc., on ne peut pas mettre en place ce système qui fait un peu tampon entre les deux ex-conjoints.
Vous écoutez France Inter, et croyez-moi, j'ai autre chose à faire que regarder l'heure. Je cherche les couches de François Rollin. Je vous ai mis... Sous la table. Toi, Quentin, qui... Je sais pas. On embrasse François, évidemment.
On a tapé dans le sol de Cyril.
C'est la boutade avec ce qu'il nous met. On a tapé dans le sol de Cyril, c'est ça que t'as dit ? Quelle honte. La pièce jointe de Manon Mariani, c'est l'heure de l'ouvrir.
Un personnage de série aujourd'hui, Lorelai Gilmore de la série Gilmore Girls. Une série qui sent bon l'automne, le café et les feux de cheminée. Sur TikTok, beaucoup de personnes la regardent à cette période d'ailleurs. C'est un peu la série doudou automnale des années 2000. Oui, beaucoup de femmes, Mathieu. Elle raconte l'histoire d'une mère et de sa fille, les Gilmore, cette saison focalisée sur la relation fusionnelle entre les deux femmes. Lorelai Gilmore a 32 ans et elle est ce qu'on appelle une maman solo puisqu'elle a eu sa fille Rory à 16 ans avec un petit ami qui n'en voulait pas et elle l'a élevée toute seule. Elle est le parfait exemple de la mère célibataire qui a dû se débrouiller pour offrir le meilleur à sa fille. Sa famille lui a aussi tourné le dos. Du coup, elle compte principalement sur elle-même. Ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que c'est une femme forte, une mère géniale et drôle qui entretient une relation très saine avec sa fille. Et c'était assez rare à l'époque, ce type de représentation à la télévision. Elle détonnait dans le paysage sériel, car les shows des années 90-2000 mettaient surtout en scène des modèles de famille hétéronormées. On se souvient tous de la famille Camden. Le générique, les cathos coincés de cette à la maison.
C'est à la maison, bien sûr.
Avec leur chien, Lassie, qui était dans le générique. Il y avait aussi la famille dysfonctionnelle mais attachante de Malcolm, ou encore les Cohen, la famille de Newport Beach. Ah. Donc, avoir pour héroïne une femme seule qui n'est pas à la recherche de l'amour, mais juste du bien-être de son enfant, et ben c'était une mini-révolution. Lorelai Gilmore est devenue un modèle pour beaucoup de femmes qui étaient dans la même situation. Elle a permis une véritable identification, une désacralisation du mode de vie en couple que chaque femme devait absolument rechercher. Ce qui est marrant, c'est que son actrice Lorraine Graham a continué à interpréter une mère célibataire dans sa série d'après, Parenthood. Et puis évidemment, son personnage a aussi inspiré d'autres héroïnes de séries, maman solo elle aussi, je pense à Mary-Louise Parker de Weeds, Suzanne de Desperate Housewives ou encore Georgia de Ginny and Georgia, des personnages forts, indépendants, qui déstigmatisent cette monoparentalité.
Merci Manon. Hélène Périvier, là, on le voit avec ce que nous raconte Manon, la monoparentalité elle est de plus en plus représentée dans la pop culture, dans les séries. Est-ce que ça change quelque chose? On comprend qu'il y a toujours un problème financier, mais est-ce qu'au moins le fait que l'image ait changé, que ça soit beaucoup moins marginal et beaucoup plus mainstream, c'est quand même plus facile à vivre quelque part?
Déjà le fait d'être plus nombreuse, déjà il y a des associations, ça permet de ne pas se sentir seule, d'avoir un collectif, de pouvoir parler de ses problèmes avec des gens qui les comprennent. Donc je pense que là, avec un quart des familles qui sont des familles monoparentales, je pense qu'on a dépassé le cadre marginal. Je pense que tout le monde a conscience qu'aujourd'hui, les configurations familiales sont multiples. On peut se marier ou pas, se paxer ou pas, se séparer, se remarier. On a des couples homoparentaux. Enfin, et tout ça, il faut qu'on arrive à accompagner cette pluralité de choix. C'est du coup plus compliqué, parce qu'on veut permettre plus de liberté. Mais il faut qu'on trouve des politiques publiques qui permettent d'accompagner les familles, en l'occurrence, de pouvoir élever ses enfants dans une optique d'égalité et de permettre à chaque enfant de grandir dans un environnement satisfaisant.
Mathieu Noël sur France Inter.
À l'issue d'une émission aussi exhaustive sur la notion de monoparentalité, grâce aux lumières de notre invité, une spécialiste du sujet, personne de sérieux ne songerait à ajouter quelque chose. Tout, personne, sauf évidemment Pierre Courade.
Toujours quelque chose à dire, professeur Courade. Toujours quelque chose à dire.
Vous l'avez pas volé,
c'est
ce jingle, cher Pierre. Pierre,
c'est sympa.
Oui, surtout.
Il est content.
Surtout quand on sait que François Rollin, le vrai, arrive juste après. Pierre, chaque après-midi, vous arrivez comme un cheveu sur la soupe pour nous résumer tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono.
Une émission très claire sur la monoparentalité grâce à notre invitée, l'économiste Hélène Périvier. Un sujet qui touche un quart des familles françaises, mais qui n'a pas de statut administratif particulier. Néanmoins, des dispositifs d'aide existent, comme le complément de libre choix du mode de garde, mais aussi au moment des divorces avec des garanties de versement des pensions alimentaires. Notre invité nous a expliqué que ce sont les femmes qui pâtissent le plus de cette situation. Dans 8 cas sur 10, ce sont les mères qui élèvent seules leurs enfants. Déjà moins payées que les hommes, elles peinent encore plus à accéder à des emplois compatibles avec l'organisation de garde des enfants. Elles s'appauvrissent. Pour notre invité, l'urgence c'est de s'attaquer aux incohérences fiscales, mais aussi à l'accès au logement, aux tarifs des cantines, des crèches, des transports, des aides dans la vie quotidienne. Voilà un bon sujet pour les prochaines élections municipales, Mathieu.
Merci Pierre, vous avez fait moins d'une minute.
C'était alors là, court,
oui, c'est parce que oui,
40 secondes.
Parce qu'il est rédacteur.
Il avait beaucoup beau.
Il est pas appuyé.
Non, aujourd'hui il est rédacteur en chef.
Le gars, il est trop content.
Il est tout fier. Regardez, il est fier. Il est fier comme un pan. Il fait la roue.
Cyril,
il fait la roue.
Vous
écoutez Pierre. Et c'est à présent le moment tant redouté de cette émission, celui où, comme des élèves de CE2, nous baissons les yeux pour écouter le professeur Rollin rendre les copies. Aurons-nous enfin la moyenne cette semaine, François Rollin? C'est à vous.
Ok, bon ben on regarde ensemble la semaine écoulée.
Voilà.
Lundi, sécurité sociale. Plus soporifique, tu meurs. Mardi, les cassos avec le sociologue Clément Reversé. En septembre, on a eu un sociologue. En octobre, encore un sociologue. C'est radio-sociologie ou quoi? On trouvera donc pas deux minutes pour parler des fromages de France au lait cru? Mercredi, Marwan Ouarab, un hacker repenti et reconverti en justicier. Pouf, un conte de fées pour les gosses. Jeudi, le livre de Jeanne Roussel, Pornographie, les femmes et le X. Sur le service public, eh ben, pas gêné les zoom-zoom. Aujourd'hui, vendredi, monoparentalité, 7 syllabes. J'en suis pas forcément fier, mais moi, à la 5e syllabe, je décroche. Je vous vois encore tout pâle, Mathieu, vous demandez... comment qu'on doit faire nous autres pour arrêter nos bêtises et trouver les questions qui intéressent vraiment voilà. les Français. Eh ben, c'est pas dur, comme disait la jeune mariée. Il suffit de renoncer à vos petites réunions d'équipe tri-hebdomadaires, bavardes et alcoolisées dans un très gros restaurant dirigé par un chef anciennement stéphanois au 6 de la rue Balzac en haut des Champs-Élysées. Oui, oui, voyez que je suis bien renseigné. Il suffit de mettre fin à cette fumisterie et de faire comme moi, d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre des vrais gens. Avec mon petit carnet, je fais le tour des bars, des terrasses, des quais du métro, les abords des stades, les parcs de loisirs, et je demande aux gens, tout simplement, quelles questions les préoccupent le plus. Et cette semaine, le tiercé gagnant est, numéro 3, quelles sont les perspectives d'évolution du pouvoir d'achat? Numéro 2, faut-il craindre une troisième guerre mondiale? Et numéro 1, Guy Mardel est-il férovipate? J'avoue que j'en suis resté comme deux ronds de flanc. Déjà, je ne pensais pas que tant de gens se souvenaient de Guy Mardel, l'auteur en 1965 de ce tube immortel.
N'avoue jamais que tu aimes.
Et puis, je me disais que ceux qui se souviennent de Guy Mardel auraient plutôt envie de savoir s'il est vivant, s'il va bien, où il vit, si à 81 ans il écrit toujours des chansons. Mais savoir s'il est férovipate, déjà je ne pensais pas que tant de gens connaissaient le mot férovipate, qui désigne les passionnés des chemins de fer en taille réelle aussi bien qu'en modèle réduit. Mais de là à se demander si Guy Mardel l'est, j'aurais pas misé un copec là-dessus. Et pourtant, c'était bel et bien la question dominante. Et comme je sais, flemmard que vous êtes, que vous ne prendrez pas la peine d'y répondre, je vous donne moi-même la réponse. Guy Mardel est-il férovipate? Pas spécialement.
Sacré François. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Z, mon cher François Rollin. Merci beaucoup Hélène Périvier de nous avoir permis de saisir tous les enjeux de la monoparentalité. Je rappelle que vous êtes présidente du Conseil de la Famille.
Merci beaucoup.
Zoom Zoom Zen.